La télé buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.
Bienvenue pour cette deuxième émission de la rentrée télé buissonnière qui fait sa petite émission hebdomadaire à Radio Transparence. Bonjour. Autour de la table aujourd'hui, Pierrot. Bonjour Pierrot.
Bonjour.
Ophélie. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Et Elsa. Bonjour Elsa.
Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Alors, petit point donc pour nos auditeurs qui ne nous connaissent peut-être pas encore. La télé buissonnière fait sa radio, c'est une émission qui est enregistrée toutes les deux semaines où les films de la télé buissonnière sont réécoutés et sont suivis d'une interview avec les réalisateurs, réalisatrices et personnages pour poursuivre un petit peu le fil de la projection. La télé buissonnière, on le rappelle, c'est un média participatif, une web télé participative, c'est un petit peu long à dire, mais qui est diffusée sur le net et qui a la particularité de présenter des courts-métrages documentaires réalisés sur le territoire. Donc on va revenir sur le film que Elsa a réalisé sur toi, Ophélie, tout à l'heure. Mais peut-être avant ça, un point d'actualité sur la télé buissonnière. Alors je me tourne vers Elsa, puis Pierrot qui est à côté de moi, avec qui je partage le micro, puisque on est à l'heure actuelle en plein projet dans le Kérigut. Est-ce que Elsa, tu peux nous toucher un petit peu deux mots de cette semaine de travail dans le Kérigut pour la télé buissonnière ?
Alors tout d'abord, c'est un projet qui est mené en partenariat avec Caméra au Point et le Bus Espace Culturel, donc l'association Autre Direction. Donc on part avec le bus dans le Kérigut. Le Kérigut, c'est un territoire qui est situé vraiment au bout de l'Ariège, entre trois territoires, entre l'Aude, l'Ariège et les PO. Donc il y a une route qui passe au-dessus d'Aix-les-Thermes par un col à 2008 qui est fermé 5 mois de l'année. Voilà, c'est pour situer un peu le territoire. Le bus espace culturel, il a été réaménagé pour accueillir des expositions. Donc on présente une exposition, on accueille le public, il est en fait sur la place du village. Et en parallèle, on propose des ateliers de cinéma documentaire aux habitants. Donc on a 4 propositions. On en a une avec l'école de Kérigut, qui s'appelle Les 4 saisons, où les enfants vont réaliser un film d'animation plutôt. Ensuite, on a Mon Territoire, qui là s'adresse au public adulte, au foyer rural et à ceux qui ont envie de venir découvrir la pratique cinématographique. Donc là, l'idée, c'est aussi de créer un petit court-métrage en partant d'un dispositif où on va plus aller vers le paysage, un peu partir des visages et aller vers les paysages, c'est l'idée. On a une carte blanche aux réalisateurs qui sont présents dans le bus. Donc il y a Chloé Jacquemoux, moi-même, Pierrot qui est en service civique à Caméra au Point et qu'on accueille pour 9 mois. Et là, l'idée, c'est de faire du porte-à-porte un peu dans les villages, d'écouter les problématiques des habitants, de discuter avec eux et donc de créer un ou deux courts-métrages à la suite de ces rencontres.
C'est un super projet, assez dense, concentré sur une semaine de travail, c'est ça ?
Non, on va être en résidence pendant 2 semaines.
D'accord.
Oups. Ouais, c'est pas grave. Là, on y est du 16 au 20 octobre et on y sera du 6 au 10 novembre.
D'accord.
Donc, en parallèle de ces propositions d'ateliers qui ont lieu la journée, le soir, on propose des soirées découvertes chez l'habitant. Donc, découverte d'une œuvre d'art qui est animée par Colline, ou alors découverte des courts-métrages de la télé buissonnière. L'idée, c'est d'avoir un moment chaleureux dans un salon.
D'accord, de voir des films, de bien manger, de bien boire, voilà. Directement chez l'habitant. Je crois qu'il y a un temps de restitution de tous ces projets. Ça sera quel jour exactement ?
La restitution, elle aura lieu le samedi 11 novembre. A priori, l'horaire est fixé à 18h pour regarder ensemble les films.
Que les enfants puissent venir aussi.
Voilà, la salle des fêtes, et puis ensuite proposer un repas partagé.
D'accord, super. Les films seront ensuite en ligne sur le site de la télévision Buissonnière pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller jusque dans le Kerigut le 11 novembre.
Mais merci. Venez, ça vaut le coup de découvrir ce territoire.
On va passer à D'où viens-tu, l'Ariégeoise, avec toi, Ophélie. Prendre le temps d'écouter ce film qui a été réalisé par Elsa, en discuter ensemble. Juste pour rappeler D'où viens-tu, l'Ariégeoise, c'est une série documentaire qui a été créée par la télé Buissonnière, où on s'interroge un petit peu sur le parcours de ceux et celles qui habitent le territoire aujourd'hui, mais qui ne l'ont peut-être pas toujours habité. Alors toi, ton parcours, il est atypique, Ophélie, mais on va t'écouter parler de ton histoire.
Mes grands-parents maternels sont de la Bastide de Cérou, juste à côté, un petit village qui s'appelle Molo Casal. Ils étaient agriculteurs. Ils ont perdu leur troupeau de vaches qu'ils ont dû abattre à cause d'une terrible maladie. Et ils sont partis avec leurs trois enfants à Paris pour trouver un travail. Je suis née à Villepinte dans le 93. À l'âge de mes 2 ans, mes parents ont décidé de quitter Paris. Je me suis retrouvée à habiter à Pamiers. Mon beau-père était géothermiste et avait des prix en fonction du nombre de chaudières qu'il vendait. Il avait un voyage offert. J'avais 17 ans par là et j'étais très choquée. Ce superbe hôtel de 21 étages était vu sur les favelas, sur la gauche, et puis droit devant le terrain de tennis, les 3 grandes piscines, et puis sur la droite, les plages privées de l'hôtel. J'ai été très frustrée parce qu'il y avait des règles que je n'avais pas du tout envie de respecter, comme ne pas parler aux locaux, fermer les portes à clé dans les voitures, ne pas ouvrir les vitres, ne pas se balader le soir. Et je me suis promis de plus repartir en voyage de cette manière-là. Quand je serai adulte, je partirai en sac à dos et j'irai voir vraiment les gens et les lieux que je veux. À mes 18 ans, je suis partie vivre à Toulouse, en colocation. J'ai rencontré un voyageur. Et un jour, j'ai fait un rêve. Il me semble que c'était les montagnes népalaises, où j'avance comme si j'étais sur un vélo. J'avance près d'une montagne et là, je me retrouve toute petite devant cette immensité et je me mets à fondre en larmes devant la beauté de la nature. Et je me réveille en me disant, c'était le Népal, je veux y aller. Et mon ami de l'époque me proposait de partir en vélo. Et alors en vélo, pour moi, c'était impossible. Je n'avais jamais fait de vélo, à part dans mon enfance, mais aucun entraînement, rien du tout. Jusqu'à ce que je discute avec des amis qui me disent, ben, tu peux t'arrêter quand tu veux, et si tu n'en peux plus, eh ben, tu prends l'avion et tu rentres. Du coup, en juin 2013, ben, nous partons à vélo pour un voyage en direction du Népal. Les premiers pays ont été très difficiles pour moi. Donc on a traversé la France jusqu'à Paris. L'entrée à Paris a été horrible. J'ai fait mes premiers 120 km, limite à faire un malaise. Et ensuite, on a traversé la Belgique et puis l'Allemagne. Donc Allemagne, il faisait 10 degrés, pluie tous les jours. Psychologiquement, c'était très très difficile pour moi. Et puis petit à petit, en Autriche, j'ai commencé à me faire à 80 km par jour. J'étais à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, j'étais toujours enthousiaste et curieuse de voir les peuples qui se cachaient dans chacun des villages. Les lieux magnifiques que je découvrais me donnaient toujours plus envie tous les jours de continuer. Arrivé en Turquie, on prévoyait de traverser l'Iran. J'appréhendais beaucoup parce que de ce que je voyais, de ce que j'entendais à la télé et autour de moi, c'était un pays où la femme était une moins que rien, où il fallait faire attention au code. Je savais que je devais porter le voile. On a passé la frontière au nord-ouest de l'Iran, donc beaucoup, beaucoup de neige. Et on arrive dans un petit village où on était frigorifié, donc on voulait boire une boisson chaude. Le monsieur du salon de thé ne veut même pas nous parler parce que les deux garçons avec qui on pédale, on pédalait à ce moment-là avec un couple de Suisses, sont accompagnés de deux femmes. Et du coup, impossible pour lui de parler à nos hommes. On se retrouve dehors devant ce salon de thé. Les passants nous voient et du coup vont demander au monsieur qui nous a refusé de au moins nous donner du thé dans des gobelets devant le salon. Je pense qu'il s'est retrouvé un peu honteux et finalement, il nous a fait rentrer. Les deux femmes, il nous a cachés au fond du salon de thé derrière un rideau. Le monsieur nous a servi environ 10 thés, peut-être pour se faire pardonner, je sais pas. On est parti et puis de là, tous les Iraniens qui nous croisaient nous s'arrêtaient pour nous donner des boissons, pour nous inviter chez eux, nous klaxonnaient sans arrêt pour nous dire qu'on était les bienvenus en Iran. J'ai rencontré beaucoup de femmes iraniennes qui m'ont beaucoup touchée aussi, parce que je n'ai pas du tout senti de soumission. Et moi-même, de porter le voile, je trouvais que ça protégeait quelque chose au niveau de ma tête et peut-être même de ma spiritualité. Dans une petite famille, quand les hommes allaient boire de l'alcool en cachette, la femme de maison me disait « Viens, tu peux enlever ton foulard ». On fumait des cigarettes, on parlait de tout, de recettes de cuisine, de sexualité, et comparait par rapport à nous, les Français, comment on vit notre sexualité, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que d'être marié, est-ce qu'on a le droit de coucher avant le mariage ? Donc, de France au Népal, un an et demi de voyage et 10 000 km parcourus, me voilà mal en point. Je pose mon vélo, je fais des treks un peu à droite à gauche et mon genou gauche ne me tient plus du tout. Et du coup, je décide de rentrer en avion. Donc, très difficile ce moment, sachant que j'avais quelques heures de vol pour rentrer en France alors que j'avais fait un an et demi de voyage à vélo. Ça a été très difficile. Mon retour en France aussi parce que j'étais dans une intolérance. Du coup, j'avais envie de réveiller mes proches, de leur faire prendre conscience de plein de choses, mais c'était pas avec douceur. Donc là, il fallait vraiment que je me retrouve, Ophélie, comme elle s'était trouvée en voyage. Un jour, je regarde la télé chez mon père et je vois tous ces immigrés syriens qui arrivent par milliers, qui quittent leur pays. Et je me retrouve perdue et impuissante à voir tout ça et à rien pouvoir faire. Et d'un coup, je me dis, Ophélie, c'est bien pour ça que t'as pas la télé, c'est parce que c'est de la manipulation, on veut vous faire croire que vous n'y pouvez rien et que vous êtes impuissant, mais c'est pas vrai. Donc dans ma petite ville de Foix, j'ai trouvé une association au centre social du Courbet. Ils allaient accueillir 7 Syriens, 7 hommes. Donc ravie, j'ai été bénévole 4 heures par semaine. Je les ai accueillis. Ils ne parlaient pas du tout le français, quelques mots d'anglais. Et puis petit à petit, des liens se sont tissés très très fort parce qu'on rigolait beaucoup alors que c'était un peuple qui a vécu des choses atroces. Donc j'avais l'impression d'être en France, mais de voyager en fait, de continuer de voyager en les côtoyant.
Merci beaucoup pour cette parole et puis pour cette douce voix et cette douce chanson qui vient clôturer la série D'où viens-tu, Lariégeoise. Pourquoi Charles, Elsa, pour finir ton film ?
Alors, du coup, j'ai cherché un peu des chansons qui correspondaient à chaque pays traversé. Et le retour en France, la nostalgie, ça m'a plu. Voilà, pendant le montage, des fois, on a une petite idée comme ça et c'est une idée fixe. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais je l'ai gardée.
Tu l'avais en tête, quoi. Ce qui est très beau, c'est cette idée de retour. Le voyage change la vie. Alors, je pense que tu vas être en partie d'accord avec cette proposition, Ophélie. En quoi ce voyage a-t-il bouleversé ton regard et peut-être orienté de ton parcours aussi ? Comment tu le vois aujourd'hui, rétrospectivement ?
Mais déjà, ça a changé, ça a bouleversé pas mal de choses dans ma vie, puisque ça m'a permis un peu de voir l'arrière du décor, de ce que j'entendais à la télé, de ce que beaucoup de personnes en France se disent des pays étrangers que finalement, en fait, on ne connaît pas. Et du coup, d'aller pouvoir vérifier et rencontrer, traverser les pays et rencontrer les gens, ça m'a permis vraiment de voir, en fait, de me rendre compte de la réalité. L'Iran, par exemple, c'est un pays, c'est le pays vraiment coup de cœur, en fait, que j'ai eu. Parce que vraiment, j'avais très peur de passer la frontière. Vraiment, je tremblais et on m'avait donné plein de petits conseils, plein de petits codes à respecter et je me suis mis une pression terrible. Et en fait, je me suis sentie accueillie comme jamais, en fait. Et dans le regard de l'homme, je sentais beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, comme si j'étais une sœur, comme si j'étais tout simplement une femme. Et dans le regard, je me sentais belle, je me sentais aimée, mais sans regard. Enfin, j'ai jamais connu un regard comme ça, en fait, en France, mm-hmm. de la part d'un homme. Mm-hmm. C'est très particulier, mais...
C'est ce que tu expliques super bien dans le film. C'est aussi oui. voir le monde par soi-même, l'expérimenter oui. par soi-même, pour faire tomber pas mal de stéréotypes, et puis les stéréotypes médiatiques, notamment, dont tu parles très bien. En réécoutant ta voix, on dirait qu'à l'origine de ton voyage, il y a un rêve.
Oui.
Enfin, il y a deux choses. Il y a un rêve et puis il y a quelque chose qui n'est pas du tout onirique, hein, qui est quelque chose un peu plus dur dont tu parles. C'est ton premier voyage au Brésil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux, j'ai l'impression, de ces deux points sur lesquels tu t'es appuyé pour motiver le voyage en vélo, qui est un voyage assez fou que tu vas faire par la suite. Est-ce que tu peux nous toucher deux mots de ta première expérience de touriste un peu violente au Brésil ?
Oui, j'ai eu des... Ben en fait, on a reçu des consignes avant de partir, donc celles que je décris dans le film. Ne pas baisser les vitres, ouvrir les... laisser les portes ouvertes et tout ça. Et en fait, ben j'ai vécu vraiment un gros décalage. J'ai ressenti un peu de... comme si on venait... piétiner un peu, profiter allègrement quoi du paysage et puis des locaux quoi. Et je me suis de suite mise de l'autre côté en allant acheter. J'ai tout acheté, tous les souvenirs. J'allais les acheter aux locaux qui pour la plupart vendaient sur les trottoirs. Et je me suis mise à parler portugais alors que je parle pas un mot de portugais, mais juste comme ça avec des mimes en essayant de.
T'avais quel âge, Ophélie?
J'avais 16-17 ans, mm-hmm. peut-être un peu plus jeune, 15-16 ans plutôt. Mm-hmm. Et je voyais un monsieur avec son mobile à l'entrée de l'hôtel se faire cirer les pompes par un petit de 10-12 ans. Et voilà, et j'ai eu beaucoup d'images en fait très choquantes pour moi, qui étaient à la base assez sensibles quand même. Et d'autres personnes me disaient que c'était normal et que c'était un métier comme un autre, quoi. Mais pour moi, c'était très choquant. Après, voilà, j'ai fait le marché la nuit, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et tout s'est très bien passé, en fait. Après, je pense qu'il faut faire attention à ce que les locaux disent, parce que tout le long du voyage, j'ai vraiment appris à me fier à mon instinct, à mon intuition, mais aussi à écouter tout ce que disent les locaux, parce que pour moi, c'est les meilleurs messagers, en fait. Mmh. Après, ce que les gens disent en France, pour moi, ça s'est pas du tout avéré vrai. Donc, voilà.
Non, c'est un voyage, presque un voyage matriciel, quoi, celui qui a laissé présager de quel côté tu voulais être, oui, pour les voyages à venir, et notamment ton voyage en Inde. Tout oui, Elsa.
Moi, j'ai une question plus pratique. Comment on prépare un voyage à vélo? C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir toutes les cartes de tous les pays que tu vas traverser? Comment, quel matériel tu te... Enfin voilà, il faut pas trop se charger. En même temps, tu vas traverser des pays très froids. Donc, comment vous avez préparé?
Alors, on a donc les cartes. On les a achetées jusqu'en Autriche. Autriche, où je crois que Slovénie, c'était les dernières cartes. Et ensuite, on les achetait au fur et à mesure pour effectivement ne pas trop s'encombrer et ne pas peser trop lourd. On s'y est pris environ 6-9 mois avant de partir en voyage. Moi, j'avoue que j'étais un peu dépassée, en fait, parce que j'avais jamais voyagé de cette manière-là. Mon ami de l'époque, lui, avait l'habitude, donc c'est lui, au niveau pratique, des cartes, des plans, on s'était mis d'accord pour les pays qu'on voulait traverser, on avait un fil conducteur quand même, qu'on n'a pas tout à fait respecté, mais après, au niveau des tenues, du vélo qu'on a fait faire sur mesure, tout ça, c'est plutôt lui, en fait, qui préparait, et moi qui avais tendance plutôt à suivre, en fait. Mm-hmm. Et concernant les tenues d'hiver, on a tout acheté en Turquie parce que on a vu que là on allait arriver en Iran en plein hiver. Ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas neigé et du coup on a eu très très froid et on a passé du nord à Yazd, c'est une ville à peu près au centre de l'Iran, qui toute cette partie-là en fait du nord au centre était complètement enneigée. Mm-hmm. Donc on a fait du vélo dans la neige tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on était bien équipés, mais encore pas assez, quoi.
Tu parles beaucoup dans le film de ton rapport au corps et à l'effort aussi, parce que tu faisais du vélo avant de partir?
Non, pas du tout. Le premier jour où j'ai essayé mon vélo, c'est le jour où je suis partie. Donc j'ai failli tomber dès les premiers mètres parce que l'équilibre des sacoches, les sacoches n'étaient pas tout à fait bien équilibrées, donc j'ai dû redescendre, rééquilibrer. Enfin, ça a été, je suis tombée aussi en pleine voie rapide à Paris. J'ai failli mourir, me faire écraser par deux 4x4 parce que j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il y avait une truelle en fait qui n'avait rien à faire là. Et plutôt que de passer entre les murs de béton et la truelle, j'ai opté pour la route, quoi. Et en fait, pour le bord, mm-hmm, entre la truelle et le mur en béton, je suis passée, l'inverse. Et en fait, ma sacoche a tapé, je me suis retrouvée sur la route.
C'était au tout début.
Et ouais, je suis tombée, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai chuté. Mm-hmm.
Parce que c'est un voyage, donc c'est un espace et un temps de rencontre. C'est aussi, tu en parlais un petit peu, une expérience humaine et spirituelle. Et puis c'est une sacrée expérience physique, quoi, au niveau du rapport à l'effort. Comment tu as géré ça et comment tu parles un peu de ton retour compliqué aussi. Mmh. Quels sont les souvenirs que garde ton corps justement de ce temps-là?
Mon corps ne garde pas de bons souvenirs de tous ces efforts. Je pense que si je n'ai pas assez écouté mon corps. Pour ainsi dire, je ne l'ai pas du tout écouté en fait. Et c'était très mental en fait. J'ai des moments où je voyais des cols de 60 km, j'étais en bas et je voyais tout ce que j'avais à monter. Et en fait, oui, j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux et je me disais que de toute façon, il fallait y aller, j'y allais, quoi. Et la douleur passait, c'est seulement le soir que vraiment je souffrais. Au début, ça s'est passé comme ça. Et en fait, petit à petit, c'est parti des pieds, puis c'est parti de la nuque et puis ça s'est rencontré, les douleurs sont rencontrées au niveau des genoux, puis au niveau des lombaires, enfin en fait... Arrivée en France, j'ai eu une névralgie, une inflammation des nerfs, due à la position de mes bras sur le guidon, puis ma nuque aussi, tout le temps un peu un peu surélevée et puis mon genou qui me fait mal régulièrement alors que j'avais pas de soucis avant quoi. Mes pieds aussi me font mal, enfin voilà. Mais après voilà, j'ai utilisé mon corps comme un véhicule, comme un outil.
Mm-hmm.
Et maintenant voilà, je suis vraiment dans les remerciements parce que ben grâce à ce petit corps, j'ai réussi à faire tout ce dont je rêvais et je suis contente.
Mm. Même à gravir les montagnes de l'Himalaya.
Oui. Alors, on parlait de spiritualité. S'il y a bien une chose qui m'a motivée à gravir ces montagnes himalayennes, c'était un enseignement du Dalai Lama, chef spirituel tibétain, qui vit maintenant en Inde, qui vient tous les ans en fait au Ladakh, au nord de l'Inde. Il n'y a qu'une route pour y aller, il faut enchaîner cinq cols. Dont deux plus hauts du monde, et du coup ben, je l'ai fait sans trop savoir où j'allais quoi. Et à chaque fois j'avais parfois envie de balancer mon vélo, j'ai pleuré, j'ai contacté la colère, chose que j'avais jamais contacté la colère, c'est toujours une émotion qui me faisait peur ou que je craignais, et là je suis allée au fin fond de ma colère, je l'ai contacté vraiment beaucoup. Et donc parfois j'avais des crises où je voulais rentrer, où je me demandais pourquoi j'en étais là, pourquoi je faisais tout ça, et très très difficile psychologiquement par moment. Et à chaque fois voilà, je me disais bon allez continue, c'est pas grave, et il y a de toute façon il y a le Dalai Lama dans une semaine là, il t'attend, allez vas-y, et puis voilà, ça m'a aidée. Mm-hmm. Ça m'a carrément motivée en fait.
Ouais, tu as trouvé de l'énergie. Et ce qui est très beau aussi, moi, en écoutant le film, c'est que j'ai l'impression que le voyage, il n'est pas fini. C'est-à-dire que, à travers ton expérience, on a l'impression que même et surtout quand on rentre dans un voyage physique et fort comme celui que tu as vécu, on peut le poursuivre d'une autre manière, par sa manière de regarder le monde, par ses engagements. Comment toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu poursuis ce voyage dans ta vie?
Alors, je sais pas trop. J'ai continué en donnant des cours justement de français à des personnes qui venaient tout juste d'arriver en France, syriennes ou autres. Hein. Maintenant, je dirais que ce serait plus par. Je travaille avec des enfants et ce serait plus parce que ce que j'essaye de leur faire comprendre de la vie, du respect, de la différence, de l'amour que de l'amour qu'on porte à la terre, que la terre c'est pas seulement la terre du jardin, mais que c'est tout un monde quoi, et qu'on est complètement dépendante d'elle en fait. Et c'est tout ça que j'essaye d'apporter. Après, j'aimerais j'ai toujours un peu de nostalgie de reparler du voyage et même d'y repenser. Et je pense que pour moi, pour mon bien personnel, j'aimerais faire une exposition des photos. Donc j'attends de pouvoir le faire financièrement. Et après, j'aimerais faire une exposition dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tous les lieux qui s'y prêtent en fait, avec des thématiques où voilà, pour permettre justement à ce que ben, les gens qui sont... qui peuvent pas bouger ou qui sont tristes ou voilà, qui puissent avoir une image du fin fond du monde et se dire bah, que c'est beau, que ça fait peur, que voilà, d'apporter une émotion particulière.
C'est un super beau projet.
Oui.
On espère pouvoir poursuivre cette projection avec tes photos et cette exposition. Merci beaucoup Ophélie d'avoir été parmi nous. Merci Pierrot, merci Elsa. Et puis,
merci à vous.
Rendez-vous donc sur Radio Transparence pour écouter la télé avec les oreilles le mercredi et le samedi. On se retrouve pour la prochaine émission dans 2 semaines. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.